Vous écoutez Parle-moi de ça, c'est moi, Marcel Richard, votre animateur, puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets de des experts et des non-experts, mais juste du monde intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va! Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue à Parle-moi de ça. Cette semaine à l'émission, j'ai le plaisir de parler avec un diplômé du Wallace McCain Institute, président et PDG de Tango Medical et finaliste 2019 pour le prix prestigieux Entrepreneur de l'année pour la région atlantique de EY Canada. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Sean Néger. Dans l'émission, on discute de apprendre des échecs de la vie, l'importance d'avoir un œil ouvert pour les opportunités qui nous entourent et de créer des connexions, qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. On parle de l'entrepreneuriat et de s'enligner avec son « why ». On parle de l'impact des gens qui nous entourent, puis de se faire un plan de notre vie. Puis là, on finit par parler comme deux petits vieux about les jeunes d'aujourd'hui, mais on parle de la résilience. Alors, sans plus de délai, voici ma conversation avec Sean Néger. Je suis ici avec Sean Néger. Sean, t'es mon cousin de plus que 8 ans, ou de, non, actually, un petit peu moins de 8 ans. So, t'es plus vieux que moi, puis on n'a pas trop pu se parler growing up, parce que 8 ans, quand t'es jeune, c'est comme, c'est une différente vie. So, merci de prendre le temps pour être ici avec moi aujourd'hui pour me parler de ça.
Hey, de rien, Marcel, ça me fait plaisir.
On s'en parle vite fait, t'as décidé c'est quoi ce qui pourrait être un sujet intéressant à se parler sur le podcast, puis tu m'avais suggéré ta journey en entrepreneuriat. Ce que j'ai répondu avec ça, c'est que j'ai peur parce que souvent le monde veut parler de journey, puis veut parler de succès, parce que c'est ça que t'es proud de souvent. But, je trouve que ça qui est intéressant, c'est dans les failures, c'est là que les leçons sont apprises. Puis je trouve ça vraiment cool parce que, come to find out, toi aussi tu crois fort dans apprendre dans les failures. So, parle-moi de ça.
Je pense que ça va de loin. Je pense que quand on parle de failure, on parle de peut-être, tu sais, tout le monde pense à failure puis pense tout de suite à fail en business, failure, j'ai appliqué pour un job, je l'ai pas eu. C'est des grosses affaires-là, mais ça, je pense que ça commence beaucoup plus jeune que ça. Ça commence quand on perd pour Monopoly ou qu'on perd au Battleship ou qu'on perd une game de hockey. Puis souvent, on va perdre, puis si qu'on a des, la plupart des parents ou des coachs out there vont dire, regarde, qu'est-ce que tu as appris de ça? T'sais? Puis c'est, quand que tu peux réfléchir, puis quand tu peux starter à faire ça à un âge qui est très jeune, tu commences à voir que quand ces choses-là arrivent, que tu peux pogner des choses ou des nuggets que si tu es pour le refaire, je ne vais pas le refaire de la même manière. Puis pour moi, c'est peut-être de quoi que j'ai pu prendre avantage ou que j'ai réalisé quand que j'étais jeune assez peut-être ou que je n'ai pas eu aussi tant de failure que ça que j'ai pu apprendre. But je n'ai eu que, ouais, c'est ça, c'est, que c'était pas le fun sur le moment puis que j'ai appris puis que j'ai eu chance de refaire des choses peut-être différemment qui m'a peut-être rendu une différente place aujourd'hui que si ça n'aurait pas arrivé.
Je file que comme aujourd'hui, tu dis comme quand t'es jeune, tu es un failure puis là, il y a quelqu'un qui te dit qu'est-ce que t'as appris de ça. Je file que c'est comme une nouvelle manière à penser. Je file qu'on se plantait la face quand on était jeune à faire des affaires stupides. Il n'y a personne qui nous disait qu'est-ce que t'as appris de ça. C'était comme, ben alors, qu'est-ce que t'as fait ça pour? So, je suis curieux si qu'il y a eu des mentors de même jeunes de ta vie que t'as appris ça. So, je suis curieux comment ça a été pour toi growing up. So, qu'est-ce qui t'a demandé d'apprendre de tes failures?
Ben, je pense que ça commence avec mes parents. Je veux dire, moi, j'avais deux parents. On vivait une place assez modeste. C'était pas, on n'avait pas énormément d'argent. On était bien. Puis, je pense qu'ils demandaient tout le temps qu'on fasse le mieux qu'on peut. Puis, dans n'importe quoi, on s'embarquait dedans. Puis, des fois, nous autres, on pensait qu'on faisait le mieux qu'on pouvait. Puis, là, nos parents arrivaient et disaient, ben, moi, je pense pas que t'as fait le mieux que tu pouvais. Puis, là, ils nous expliquaient pas pourquoi. Puis, des fois, ben, on est là pour on veut l'entendre, la réplique. Mais souvent, on veut pas entendre ça de nos parents.
Ouais.
So, je pense que c'est comme là que ça commence. Ça commence avec mes parents. Ça commence après ça avec, tu sais, même des amis, tu sais, comme les amis que j'ai eus qui étaient proches de nous autres. Nous autres, on était chanceux. On restait pas trop loin de chez vous, Marcel. Puis, on avait une gang de boys qui étaient proches, qui étaient toutes proches de la même âge. On a fait beaucoup de choses ensemble. So, on a eu chance de faire beaucoup de sport ou d'activités qu'il y avait un gagnant puis un perdant. Puis, j'ai eu chance d'apprendre à gagner puis j'ai eu chance d'apprendre à perdre. Puis, je pense que j'ai autant appris de mes places que j'ai perdues que quand j'ai gagné. Puis, c'est ces petites choses-là, des fois, que ça va plus loin qu'on pense. Que quand ça arrive, on réalise pas que c'est actually, ça peut te faire une différente chose à notre vie. Ça peut te mettre ces building blocks-là pour qu'on puisse avancer plus tard.
Oui, puis je suis curieux si tu t'en rappelles de des temps où tu étais jeune, que tu as eu des leçons in failures. But, j'assume que quand tu es jeune, on dirait que c'est encore plus dur à réaliser qu'il y a des leçons dans ces failures-là. But as you're thinking back, y a-t-il des leçons que tu files que tu étais jeune, que tu as appris, qui t'ont resté même aujourd'hui?
Oui, une qui m'a resté, puis c'est peut-être une des plus grosses que je dirais comme failure, c'est, tu sais, à un moment donné, moi, à l'école, je n'étais pas nécessairement très bon à l'école. Tu sais, je passais, mais je passais juste de justesse. Puis souvent, ben, parce qu'il dit, ah, ben, je suis un bon petit garçon à l'école, so on va le faire passer. Puis, longtemps, c'était ça qui était mon, c'est ça que moi, je trouve qui me tenait en arrière. C'est ça que j'avais un petit peu plus honte de, ça fait, à un moment donné, quand j'ai arrivé au polyvalente, ben, les temps vont rattraper, puis mes parents ont décidé de me faire répéter ma deuxième année. Puis, je pense à ça aujourd'hui, puis je me dis, comme, c'est probablement la plus belle chose qu'ils ont pu faire, parce que là, ça, oui, ça c'est dur sur l'ego. Ça a été difficile de laisser un groupe d'amis qui ont été proche avec et s'en faire des nouveaux. Mais tout d'un coup, ça m'a permis d'être au niveau où ce que je devais être. Ça m'a permis de faire réaliser, de me rattraper. Ça m'a permis de monter mes notes à un point où ce que, tu sais, en sortant de là, j'ai pu aller au collège ou si j'avais voulu aller à l'université, j'étais pas loin de me rendre à avoir les notes de son université. Ça fait, je pense que j'ai réalisé que juste cette affaire-là, juste répéter ma neuvième année, autant que c'était si tant dévastateur de ce temps-là, qu'aujourd'hui, je suis très reconnaissant que c'était la meilleure chose à faire. Parce que c'est ça, c'est une leçon de la vie. C'est des choses que je me dis, garde, ça va être pour le mieux down the road. Puis, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Mais j'ai appris, il fallait que je travaille un petit peu plus fort, puis il fallait que je me donne du temps, puis il fallait vraiment que je concentre dans mes études, puis si je voulais réussir, puis pas répéter une troisième fois, ben, voulais que je change les choses. Puis c'est ça que ça m'a permis de faire.
As-tu pu vite assez réaliser ça?
Ouais, ça n'a pas été longtemps parce que je pense que je l'ai vu tout de suite dans mes notes, tu sais, puis je l'ai vu tout de suite que je m'ai fait d'autres amis qui étaient aussi sur la fun, puis mes autres amis qui étaient là avant étaient encore là. Puis une fois que tu peux accepter ça, parce que c'est plus tough sur toi-même que ça que le reste du monde y pense. Tu sais, le reste du monde que moi j'avais répété, c'était pas si valeur, j'en ai répété, fort probable, you know, what a loser, puis c'était that's it. Tu sais, comme c'était, but pour toi, tu penses que c'est the talk of the town forever. C'est pas le cas, tu sais. Ça fait aussitôt que j'ai pu réaliser que, regarde, la vie continue, puis tu sais, tu n'as pas été débousselé, puis j'ai encore là, puis j'ai encore du manger sur la table, puis tu sais, mes parents m'aiment encore, puis mes amis sont encore là. J'ai pu m'en faire d'autres davantages que peut-être j'aurais pas fait si j'aurais pas, si ça n'aurait pas arrivé. Ça fait, non, c'est, il y a eu des, je m'en aperçu tout de suite qu'il y avait des bonnes choses à ça.
Nice. J'aime ça, puis j'ai curieux, comme, j'ai tout le temps vu Sean comme le gars social. Hein. C'était le gars qui parle à tout le monde, c'était le gars que tout le monde connaissait. J'ai curieux si que ça a développé à te faire forcer à avoir des nouveaux amis ou est-ce que tu as toujours été comme extraverti comme ça, même quand tu étais plus jeune?
Ben, je pense que j'ai tout le temps eu ça un peu. J'ai un gars qui était curieux, puis j'avais une curiosité de connaître les gens, de connaître un peu à propos des gens. J'étais quelqu'un que, dans le temps, tu sais, j'allais avec mon père, je suivais mon père partout où il allait, dans toutes les choses que mon père était impliqué dans la communauté, si qu'il pouvait m'emmener avec lui, je le suivais. Ça fait que, tu sais, j'apprenais toutes les différentes choses. Mon père faisait de différentes choses, tu sais, de la construction jusqu'à, il était pompier, il était d'autres, toutes sortes d'affaires que, tu sais, comme quand c'était jeune, puis t'es, de toute façon, on dirait que tu fais partie de ça, puis je rencontrais plein de monde, puis plein d'adultes avec ça. Puis plein de personnes que, tu sais, qui me donnaient du temps, ou qui m'écoutaient, ou qui me répondaient mes questions que j'avais. So, je pense que c'est ma curiosité qui m'a peut-être donné ma confiance de connaître plein de choses, puis de, comme tu dis, être extraverti, puis commencer des conversations. Puis ça, ça a commencé très jeune. Puis ça que j'ai réalisé, c'est que il y a assez d'opportunités qui se présentent devant toi toujours, que le monde ne voit pas parce que on pose pas la question ou qu'on est gêné de poser la question ou qu'on est gêné de demander à cette personne-là. Puis on manque ces opportunités-là. Tu sais, ça peut être de quoi aussi simple qu'être en ligne avec, en train d'attendre pour de quoi, puis la personne à toi, tu dis bonjour, puis tu commences à parler, puis tout d'un coup, il y a une connexion qui se fait où, tu sais, tu vas avoir un numéro de téléphone de quelqu'un, il dit, ah, ben, tu travailles dans tel domaine, connais-tu cette personne-là, ou moi, je suis en train de faire ceci. C'est incroyable quand tu rouvres tes yeux à ces opportunités-là, qui sont là à tous les jours, puis quand tu sortes à réaliser qu'ils sont là, d'être conscient de ça, comment est-ce que ces choses-là ont pu changer des directions de ces choses que j'ai faites jusqu'à date, tu sais. C'est de pouvoir avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. C'est de sortir de sa bulle de confort pour aller explorer ça un peu.
Ouais, j'aime ça. Puis c'est quelque chose que personnellement, moi, j'ai un weird de sorte d'introverti, extraverti. Il y a eu ce que j'aime vraiment ça, parler avec le monde, disons, en ligne, parce que je trouve ça, c'est le fun, ça fait de quoi faire. Puis des fois, on dirait que ça connecte. Je pense un exemple, juste New Year's Eve, j'étais prêt d'attendre pour du Chinese food. Puis on m'a une demi-heure à attendre. Je commence à parler. Le gars en avant de moi, il me parlait de. J'avais été à Toronto pour essayer de suivre un rêve de devenir musicien professionnel. Puis, hey, j'ai trouvé ça super intéressant. Après une demi-heure, je voulais même pas mon Chinese food. Je voulais continuer à parler à ce gars-là.
C'est ça.
But de quoi de même, c'est que comme j'ai assez peur d'approcher le monde parce que j'ai peur. Je veux pas tanner le monde parce qu'il y a quand même du monde qui ne veulent pas parler à personne. Puis comme si tu parles, il sera comme « how come tu me parles, right? » So, comment est-ce que tu fais pour passer à travers de cette fear of rejection-là d'une manière, right? De comme commencer de quoi puis ça va nulle part, ou de commencer de quoi puis tu vois que tu déranges une personne. Y a-t-il déjà eu cette barrière-là que tu as eu besoin de faire des choses pour traverser, ou ça a vraiment tout été naturel?
Non, ça peut toujours être naturel. Je pense que c'est de quoi que on a. Je pense que tout le monde a ça dans lui, mais je pense que ça se développe. Puis des fois, il faut qu'on prenne, qu'on risque un petit peu pour voir qu'il y a une récompense ou qu'il y a une reward après. Puis je me rappelle, j'étais dans les scouts, comme c'est drôle que ça me vient à l'idée de suite. Mais j'étais dans les scouts, puis on voulait faire une activité. Puis dans ce temps-là, à Saint-Antoine, le service d'incendie avait une van 15 passagers. Puis c'est drôle assez que tu vas emprunter la van de 15 passagers pour des activités comme ça, pour emmener tu sais, des personnes ici et là un petit peu de partout de la paroisse, ou quand même au jour d'aujourd'hui ça se fait jamais là, mais tu sais, dans ce temps-là c'était comme le bus communautaire un peu. Mais je me souviens que ma tâche que j'avais eue pour cette activité-ci, quand on allait, je pense, à Saint-Paul ou quelque chose comme ça, c'était, il fallait que j'appelle le chef pompier pour demander si c'était possible qu'on pouvait emprunter, ou s'il y avait quelqu'un qui viendrait nous conduire à Saint-Paul pour cette activité de scout-là. Puis je m'en souviens que j'avais le téléphone des mains, puis j'avais le numéro, puis hey, ça me tentait pas d'appeler ce monsieur-là pour lui demander. Tu sais, j'avais honte, j'avais ce genre de sens d'inconfortable là, qu'on a tous eu, là, tu sais. Puis j'ai pris, puis là, j'ai dit, OK, faut que je le fasse, j'ai pas de choix, tu sais, tout le monde, si moi j'appelle pas, on peut pas y aller, là. Je peux pas aller de nouveau au scout puis dire à tout le monde, j'ai pas fait mon petit bout que j'avais besoin de faire. C'est comme de fait, je prends le téléphone puis j'appelle, puis tu sais, le monsieur est très réceptif. Oui, pas de problème, on va faire ça. J'ai accroché, comme le sentiment que j'ai reçu là, ou que j'ai ressenti là, m'a dit comme, hey, sais-tu quoi? C'est peut-être des petites affaires de même qu'il faut que tu fasses plus souvent. Tu sais? Puis je pense que c'est des petites affaires de même que tu fais. Comme tu dis, tu étais en ligne, tu as commencé à juste parler avec ton monsieur au chinois, puis tout d'un coup, tu avais une conversation. Mais si tu ne l'aurais pas fait, ou si tu étais... Tu sais, ça prend des fois, tu as juste ce sens-là. Ça, tu sens bien, on ne prend pas la chance. Tu devrais le faire. Tu devrais juste dire. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais parlé à quelqu'un autant extraverti que jupe, autant que j'ai la facilité d'approcher le monde. Puis ça. Je ne l'ai jamais fait que je m'ai fait tourner de bord, tu sais, ou que j'ai eu un très mauvais résultat des choses que j'ai demandées. Puis si oui, c'est parti d'une failure, puis qu'est-ce que j'ai appris de ça, tu sais. Mais je pense que le monde est juste, c'est ça, ça retient un peu trop. Puis pas avoir peur de continuer à faire ça va rouvrir des portes, vraiment.
Je pense que oui, je suis totalement d'accord avec ça, puis c'est juste tellement plus facile en idée qu'en exécution. Parce que, puis c'est drôle, tu disais comme t'as jamais eu une mauvaise expérience, moi, sur la plane, souvent, je parle avec la personne à côté de moi. Comme j'ai eu des conversations incroyables avec la personne à côté de moi, mais j'ai aussi eu des conversations où j'étais comme, oh, j'aimerais mieux commencer à lire mon livre right now.
Bro, mets mes earpods, bien animer ma musique, va être un à hint que je veux pas y parler.
Il y a ça, mais c'est tout le temps awkward. C'est awkward de couper une conversation parce que l'autre tombe dedans, puis toi, t'es juste comme, non, moi, je suis comme fini avec ce site-là. Mais l'affaire d'eau, c'est si je pense globalement, là, j'ai eu, c'était tout le temps des expériences super enrichissantes. J'ai été chanceux, j'ai voyagé mars l'année passée, moi. Puis je m'en venais, puis il y avait une femme à côté de nous autres, elle avait pas mangé son rôle. Puis moi, j'étais starvé. Puis c'était comme un rôle dans un petit sac. Puis là, finalement, je dis, as-tu mangé ça? Elle dit non. Je suis comme, je pétais le l'air. So anyways, elle me donne son rôle. J'étais starvé, j'avais faim. Par la suite, j'ai même demandé à la story, je prépare un autre meal. Je sais pas, comme j'étais starvé. Même, c'était un long flight overseas. Après ça, j'ai commencé à parler avec elle après ça. Ça donne que c'était une psychologue spécialiste en problèmes alimentaires. c'était juste vraiment drôle. But j'ai parlé avec elle pour comme 45 minutes, une heure. J'ai eu une super belle conversation. Puis c'était comme, tu sais, ça fait passer une heure sur une flight de comme, je pense, c'était 8-9 heures. So, c'est pas mal nice. C'est super positif. Puis ça finit quand c'était naturellement à finir. But, so, I guess que ce que je me demande, c'est que je trouve que le fear of failure sur les affaires de comme, tu sais, de s'asseyer, je pense qu'on a peur de s'asseyer parce qu'on a peur que ça soit un failure. Puis moi, j'ai un terrible de gros fear of failure. C'est quoi que j'aimerais pouvoir m'améliorer dessus. Il y a un secret part de moi qui pense que ce fear of failure-là m'a aidé dans ma vie, par exemple, parce que je me dis que ça m'a fait travailler plus dur à trouver la bonne solution. Mais quand je peux pas trouver la bonne solution, ça me paralyse dans l'inaction. Puis comme entrepreneur, je suis sûr que tu as plusieurs décisions à faire. Est-ce que l'inaction est juste pas une option? As-tu des conseils sur comment est-ce qu'une personne fait pour surmonter ce fear of failure-là et de pousser à travers?
Ouais, je pense que toutes les décisions qu'on fait la plupart du monde, c'est des décisions qui est pensée un peu. Tu sais, c'est quand j'étais pompier puis j'étais capitaine à un moment donné, puis tu sais, il fallait que tu penses on your feet. Il y avait des décisions à faire tout de suite. Tu sais, la maison feu, on envoie toutes les personnes, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est des décisions qui s'est faites tout de suite. Et la plupart des décisions que je fais aujourd'hui, c'est des décisions que tu as du temps. Tu n'as pas besoin de décider aujourd'hui tout de suite. Puis ça veut dire que j'ai le temps d'emporter soit mon équipe administrative ensemble, puis avoir une discussion, puis demander le feedback. J'ai le temps d'appeler quelqu'un qui est peut-être connaissant dans ce domaine-là. J'ai le temps d'appeler un autre entrepreneur, voir s'il a déjà vu ça. Puis je pense que c'est là que ça aide. Puis je pense que des fois, on se reste tout seul à faire la décision jusqu'à... On n'a déjà pas avoir besoin de se laisser tout seul. Souvent, les décisions qu'on a à faire, il y a quelqu'un qui passe à travers de ça, nous autres. La roue a déjà été inventée. Ça fait, pourquoi pas aller explorer ça un peu avant? Faire un appel, des fois, à quelqu'un pour savoir leurs opinions ou ce qu'ils vont passer à travers de la même chose, puis voir si ça a-tu marché? Si ça n'a pas marché, pourquoi que ça n'a pas marché? Puis apprendre de leur failure pour faire ça, peut-être que le tien marche, va pas failer. Donc, je pense que c'est, une fois que tu commences à voir ça, tu commences à pouvoir faire ces décisions-là plus faciles parce que c'est une décision qui a été pensée un peu, analysée, puis tu vas de l'avant. La différence, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui reste puis qui pense trop longtemps. Puis qui commentent, puis qui bougent pas. Moi, je les appelle les owls. Il y a comme 4 types d'oiseaux là que des personnes, moi, je vois qui fit dedans là. Ça, il y a l'eagle. Le eagle, ben ça c'est comme le leader, c'est lui qui prend une décision. Il a pas peur d'aller de l'avant puis foncer de l'avant. Il y a l'owl qui est comme l'ingénieur, oui, je me trompe pas, Marcel, français, ça de côté.
Oui.
L'ingénieur, c'est la personne ou le comptable. Il faut que ça soit tout pensé, il faut toutes les check marks qu'on fait avant de dire OK, go, on peut y aller. Après ça, t'as le peacock. Peacock est très sociable. Puis, tu sais, lui, il va organiser les parties. Puis, il va faire ça que tout le monde est content. Puis, après ça, t'as le dove, qui est vraiment la personne qui aime tout le monde. Il veut que tout le monde soit bien. Puis, tout le monde soit content. Puis, tu sais, world peace. Puis, c'est bien. Puis, souvent, on n'est pas juste un oiseau. On est une combinaison d'oiseaux. Mais il y en a un qui est plus dominant que les autres. Ça fait, souvent, ceux-là qui ont la misère à prendre l'action ou ça, c'est les owls qui faut tout ça soit coché pour dire, on prend la risque. Là, il y a presque plus de risque, je vote l'avant. On parle de l'eagle, lui, des fois, il est trop vite. Donc, des fois, il faut que tu aies une équipe qui a un petit peu de tout, tu sais, puis tu peux filer off sur le monde. Mais je pense que c'est là que le monde, des fois, est trop sur le côté owl. Même si tu es un owl ou pas, tu peux still prendre une décision pour aller de l'avant, mais je dis juste qu'on analyse trop avant d'aller puis l'essayer. Des fois, on peut pas tout avoir ensemble pour aller de l'avant. On peut pas attendre que tous les morceaux du puzzle soient là avant qu'on peut aller de l'avant parce qu'on attend que ça va arriver, on va manquer cette chance-là.
Mm-hmm.
Puis je pense que c'est là que tu ramasses le plus de données que tu peux, tu ramasses le plus de renseignements que tu peux, puis quand c'est la décision, il faut que ça soit fait, il faut juste que tu tires sa gâchette puis il va.
Y a-t-il une manière que tu as fait pour être plus confortable avec tirer sa gâchette puis y aller?
C'est certain, le plus que tu en fais, puis le plus que tu vois que tu as un petit peu d'expérience dans ça, un petit peu, que tu fais beaucoup de décisions, tu vas dire, OK, ben regarde, si ça va marcher, je m'ai déjà vu cette situation-là, on va faire ceci, puis ça va rectifier les choses. Mais je pense beaucoup que ça vient un petit peu plus confortable, mais c'est jamais 100%. Tu peux pas jamais être trigger happy. Je pense que dans ce temps-là, tu peux tomber dans le trou. Et puis ça m'est arrivé. J'ai sauté dans des ventures, dans des choses trop tôt, avec pas assez de savoir en arrière, puis que ça n'a pas marché. Puis là, je me dis, avoir su ça chez aujourd'hui, j'aurais pas fait ça.
Ouais.
Mais si je l'aurais pas essayé, j'aurais peut-être jamais su non plus. T'sais, ça aurait pu être totalement l'opposé, puis ça aurait pu être un succès, mais quand tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Puis aussi, c'est certain, quand c'était jeune comparé, là, j'ai 45 ans, tu as plus d'expérience, tu as plus de vécu, tu joues tes cartes un petit peu différent. Ça que je trouve qui est malheureux un peu, par exemple, c'est que je trouve qu'il y a trop de monde qui sont d'un âge d'une quarantaine d'années ou quoi même, qui sont peut-être pas contents de le travail qu'ils faisaient ou ils sont peut-être pas, mais ils sont comme, je pourrais jamais changer. Tu sais, je pourrais jamais laisser ma job puis aller faire de quoi peut-être que j'aimerais mieux faire, tu sais, ou que j'aurais une passion pour. Puis tout le monde reste stock dans le petit silo puis dit, well, je suis rendu trop vieux. Là, si j'ai une famille à prendre garde, j'ai tout ça. Moi, je crois qu'il y a mon tort. Tu sais, je pense que oui, c'est vrai que tu fais sûr que les choses sont en place, mais si jamais que tu peux faire ce saut-là, il y a pas un âge qui est mieux qu'un autre. Quand tu fais ce saut-là, tu vas vivre une plus belle vie. Puis moi, je garde mon père comme exemple. T'sais, mon père travaillait pour la municipalité de Saint-Antoine, puis il a eu une carrière là, puis ça a devenu un point que c'était trop. T'sais. Puis il savait plus, puis il était rendu dans sa cinquantaine, cinquantaine, puis il voyait pas d'autres sorties que ça. Il a fait un burn-out. Et sa santé était après de prendre de l'âge à cause de ça. Puis à un moment donné, je m'en suis avec lui, puis j'ai dit, papa, j'ai dit, comme pourquoi qu'on commence pas de quoi, moi, puis toi? T'sais, t'es bien coupé des arbres, pourquoi qu'on... On n'achète pas un bucket truck, puis on coupera des arbres, puis juste quoi, on decide. Puis éventuellement, c'est que ça vient, que ça fait quelque chose, mais tu pourras laisser ce job-là. Et mon père n'aurait jamais fait ça par lui-même, tu sais. Mais on l'a fait, comme de fait. On a commencé ça les fêtes de semaine, on faisait les fêtes de semaine les soirs, puis tout d'un coup, c'est devenu qu'il n'avait assez, qu'il a pu laisser l'emploi qui le rendait malade, puis travailler pour lui-même pour 15 ans de temps, tu sais. Puis quand je regarde ça, je me dis comme cette valeur qu'il avait pu le grit à cet âge-là de vouloir faire ce changement-là, parce que là, il a vécu une très belle très beau 15 ans qu'il a pu avoir sa propre business et travailler comme que lui voulait. Puis, il a même eu quoi vendre après. Il y avait une business qu'on a pu vendre. La plus grosse chose dans ça, c'est qu'il a regagné sa santé. T'sais.
Oui.
Ça, il n'y a pas d'argent qui peut mettre à ça. Ça, c'était une leçon que j'ai apprise. Puis là, j'étais jeune, puis c'était facile pour moi à pousser mon père puis dire ça. Puis peut-être à cause, je l'avais un petit peu dans moi que je sans entrepreneurship. Puis on a pu faire ça, mais c'est certain que c'est pas évident pour quelqu'un qui a 50 ans de dire change de carrière. T'sais.
Mais tout aurait eu que là, ce temps-là.
Oui, ça, c'était dans les années 2000. Ça fait.
Que 24 ans?
Oui, c'est à peu près dans ces âges-là.
So, je suis curieux si que. Comme à 24 ans, qu'est-ce qui t'avait donné cette piqûre entrepreneuriale-là? Est-ce que tu penses que c'est né ce désir-là d'être entrepreneur ou ce mindset-là d'être entrepreneur?
Je pense que ça vient peut-être un petit peu de loin. Comme ça vient que, tu sais, dans notre famille, Marcel, on avait peut-être mon oncle, ma tante qui était entrepreneur. On avait des petites business, la communauté, des choses comme ça. Ça, c'était. J'ai vu mes oncles, mes ma tante avec des petites business. Puis c'était cool de voir que c'était eux qui géraient ça. Dans la communauté, tu sais, il y avait plein de monde influençant dans la communauté qui avait des business que je voyais, que je mettais de l'essence quand je travaillais au Irving, je mettais l'essence dans le char, puis j'étais curieux, je posais des questions. Donc, je pense que ça a venu comme ça. Puis aussi, ça a venu de la communauté. On avait une communauté de ce temps-là, il y avait un comité de jeunes, il y avait beaucoup de choses pour les jeunes où est-ce que ça t'exposait à des choses comme ça. Puis on faisait des projets ensemble. T'sais, puis si on faisait un projet ensemble, puis si on réussissait, que ça soit faire un déjeuner communautaire, on dirait que c'était le fun de gérer ça. C'était le fun d'être responsable de ça. So, je pense que ça a venu, tu sais, ces petites graines-là, mettons, à venir à faire en sorte que ça fait, ça pousse ça qu'a poussé. Puis, ça est devenu de là. J'ai tout le temps eu le côté leadership aussi, qui pour moi était fort. J'étais présent avec beaucoup de leaders autour de moi. Tu sais, je vois juste ça aujourd'hui. Ils disent comme un bon leader développe des nouveaux leaders. Mais on avait, tu sais, je suis entouré de leaders qui développaient des petits leaders. Derrière eux, puis j'étais chanceux que j'étais un d'eux autres, tu sais. Puis ça, ben, c'est un petit peu ça, tu sais, ce que moi, je m'en vais avec plus tard pour moi, ben, c'est comment est-ce qu'on fait pour développer d'autres leaders? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour aider à développer d'autres leaders? Puis ça, souvent, je garde même dans mon organisation à moi-même. T'sais, chez Tango, on a-tu du staff, c'est qu'on peut développer comme du leadership? Puis essayer de les enligner de ce côté-là. Je pense que c'est une combinaison de choses qui font en sorte que ça. J'avais été à ce sens-là où ça m'a venu.
J'ai curieux, puis tu l'as mentionné une couple de fois, tu sais, comme avec les groupes que tu faisais partie de. Tu as toujours fait partie comme les scouts, le club des jeunes, des choses comme ça, où ce que ça a été très collaboratif, on dirait, tes affaires. Puis même que je garde les projets que tu fais right now, on dirait qu'il y a sûrement avoir beaucoup de collaboration là-dedans, ça. Même que ta business s'appelle Tango. Puis moi, si tu me dis Tango, je pense à It Takes Two de Tango. On dirait, je trouve que déjà, le nom, il y a de quoi de collaboratif dans le nom. Puis c'était quelque chose qui a été comme. T'es inspiré par tous ces projets-là qui ont été collaboratifs d'avance, puis c'est quoi pour toi la collaboration? Comment est-ce que ça peut-être influence ta vie?
Ben c'est beaucoup. Comme moi, je suis pas quelqu'un qui peut rester tout seul. T'sais, comme je peux bien rester tout seul pour une journée là, mais après ça j'ai besoin du monde autour de moi. Puis j'ai besoin qu'on organise une activité ou qu'on fasse quelque chose. T'sais, j'ai tout le temps été comme ça. Puis j'ai tout le temps voulu faire différentes choses. C'est pour ça que si tu regardes, tu sais, le monde dit, ah, t'as été pompier, t'as été paramédic, t'es entrepreneur, t'as travaillé au Home Hardware. Comme, on dirait que j'ai eu beaucoup de carrière, tu sais, dans ça. Ben, c'est ça, je pense, qui fait la richesse de ça que j'ai aujourd'hui. C'est que j'ai pu toucher un petit peu tout. Ça m'a donné un peu de perspective de tout. Puis, pour nous autres, ben, comme Tango, un exemple, il faudrait que je dise que je donne full credit au marketing. Ça veut pas faire avec Sean et Jacques à venir avec le nom Tango. Ben, basically, ils m'avaient demandé d'emmener quatre personnes qui me connaissent très bien, puis un cinquième qui était un ami d'enfance. Aujourd'hui, on est quatre personnes qui travaillent, puis après ça, ils ont commencé à passer à travers de quoi ce qu'on fait comme travail et tout ça. Puis ils ont dit, ben regarde, vous autres, avec dans le domaine médical que vous faites, puis le monde que vous aidez, c'est un petit peu comme une danse de tango, parce qu'il faut que vous dansiez avec le client un petit peu, il faut que vous dansiez avec l'ergothérapeute ou les professionnels pour savoir quoi ce que eux voulaient, puis danser avec ceux-là qui payent pour le fauteuil roulant, que ce soit les compagnies d'assurance ou les vétérans. Il y avait beaucoup de danse. C'est pour ça que c'est là que le nom Tango est venu. C'était comme la danse Tango. Puis, on dirait que ça fitait bien avec un petit peu tout ça que si je regardais. Parce que moi, j'ai fait, j'ai dansé avec beaucoup de partenaires, mettons.
Puis, je suis curieux aussi que comme ça te prendrait ça. Comme des fois, tu vois quelqu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime de trouver un système puis de peaufiner, de basically, de le rendre d'une manière plus efficace pour pouvoir extraire de la valeur de ça puis t'sais, faire une business. But je feel que pour toi, c'est que ça serait rien pour faire une business puis faire de l'argent, il manquerait peut-être de quoi. Je suis right avec ça?
Ouais, ben, je vais te dire, pour longtemps, la raison que je chassais l'entrepreneuriat ou bien que je parle avec ça, c'était de l'argent. Tu sais, je regardais ce monde-là, je me disais, hey, il fait une belle vie, puis tu sais, ça serait le fun. pour longtemps, je pensais que c'est ça que je chassais. Autant que c'était une passion aussi, comme, tu sais, ça fitait dans mes choses. Puis, à un moment donné, on a venu à un point où, OK, gars, financièrement, on est du mieux que j'ai jamais été. Je penserais jamais que je me rendrais où ce qu'on est. Puis, je suis pas millionnaire à Valley News. C'est pas ça que je peux te dire, mais juste après te dire que j'ai surpassé ça que je pensais que Sean allait ever passer là. Puis, je pensais que c'était le côté argent. Mais pas longtemps après que j'ai acheté ma business, je m'ai aperçu que, tu sais, là, l'affaire de l'argent était comme un crochet, tu sais. Je pouvais continuer à dodger, c'est plus si je voulais. Mais il y avait un vide quand même. Tu sais, comme, j'avais quand même un vide parce que tout ça, je pensais que ça allait me donner, ça me l'a pas donné. L'affaire matérielle, ça passe, ça reste pas. Tu sais, quand tu t'attends à garder aux vraies choses, c'est qu'est-ce que les cinq personnes que tu tiens proche d'eux? Souvent, les cinq personnes que tu tiens proche d'eux, c'est ça que toi, tu vas être. C'est que ces cinq mauvaises influences, ben, les chansons, tu vas être une mauvaise influence toi aussi. Ça fait, pour moi, j'ai réalisé que collaborer, être avec du monde, être du monde qui est comme moi ou comme ça, que j'avais, que ça, j'aimais beaucoup ça. T'sais, puis que c'est ça que je veux aller pour. Aider le monde était une autre chose. T'sais, comme ils disent tout le temps, il faut que tu trouves ton why, ta raison d'être de la vie. Hey, j'ai cherché pour ça. J'ai gardé partout. Tout ce temps-là, c'était devant mes yeux tout le temps. Jusqu'à temps que quelqu'un a dit, Sean, t'aimes d'aider les autres. T'sais, garde ce que tu as fait dans le passé. Toi, pour toi, tu as quelque chose. Si tu aides quelqu'un, un ressentiment de ça. Puis c'est vrai, c'est exactement ça que c'est. C'est ça mon why. T'sais, c'est ça ma raison d'être. C'est aider les autres. Ça fait, souvent, ils disent comme, essaye de trouver c'est quoi ton why. Ça fait dire quoi ce que c'est. C'est d'essayer de trouver ça. Puis ça va t'aider à enligner tes passions. Puis ça, que ce soit l'art, la culture, la musique, l'entrepreneurship, l'enseignement. Toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut juste essayer de creuser un petit peu pour essayer de trouver quoi ce que c'est.
So, ça, c'est une question que je m'ai posée longtemps. Ça fait 12 ans que je cherche cette question-là. Puis que je chasse après ça d'une manière. Puis j'ai curieux. C'est quoi ce qui a été le processus pour toi? Puis, qu'est-ce qui l'a déclenché? C'est quoi le point que t'es arrivé comme, OK, il faut que je trouve mon why? Ou que t'as dit que t'as cherché? Puis, comment est-ce que tu t'en as navigué?
J'ai été chanceux. J'avais été nominé sur l'Institut de Wallace McCain. Puis ça, c'est un institut où ils prennent des entrepreneurs de la province. Ils choisissent 15 personnes. Moi, de mon cohort, mettons, là, on était 360 qui avaient été nominés. Puis, ils ont choisi 15. Puis, j'ai été chanceux. J'étais un des 15. Puis là, c'est une année, c'est intense, trois jours. Une fois par mois que tu te rencontres à tous les mois pour un an, tu apprends de tout à propos de business. Puis souvent, tu apprends pas nécessairement la matière que tu apprendrais si tu vas à l'université en business. C'est pas la même chose. Tu apprends des choses parce que tout le monde a déjà un business. Tu sais, on parle beaucoup de nos business. Puis à un moment donné, tout le monde qui était autour de la table parlait de son why. Puis essayait d'enligner ses compagnies ou qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur why. Puis moi, je pensais, qu'est-ce qu'ils parlent d'eux? Tu sais, comme c'est la première fois que j'entendais ça. Jusqu'à temps que j'ai eu le livre, tu sais, le Find What's Your Why, je pense, de Simon Sinek. Puis, j'ai lu ça. Puis, ça m'a comme inspiré un peu, mais c'est là que j'ai commencé à chercher un peu c'était quoi, tu sais. Puis, c'est comme je dis, c'était devant mes yeux tout le temps. Je savais juste pas. Mais je cherchais pour de quoi d'autre qui était peut-être pas là, tu sais. Jusqu'à ça que ça m'a été dit, comme, Sean, regarde, c'est ça que tu fais, c'est ça que t'aimes faire. Ça fait, va là-dessus. Puis ça, c'était après qu'ils avaient fait des profiles sur moi. Puis, tous les profiles qu'ils me donnaient sont liés à tout pour ça aussi. Ben, je continue à chercher pour de quoi d'autre. C'est comme si j'étais naïf là de tout ça. Jusqu'à ce que j'ai pu dire, OK, j'accepte que c'est ça que c'est. Puis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je pense que c'était ça qui était la grosse réalisation. Puis, tu sais, je pense que dans ce temps-là, puis ce livre-là, je ne sais pas comment vieux qui est, mais je pense qu'il sortait juste. Le monde, tu sais, connaissait pas beaucoup à propos de ça. Ou de, ça, c'est pas qu'on a appris à l'école. Tu sais, puis c'est peut-être des choses qu'on apprend à l'école. Au collège, d'essayer de se trouver un petit peu plus, mais c'est pas là. Mais je l'ai trouvé, j'étais chanceux, puis de tout ça, j'ai pu trouver un peu ma passion puis ma drive, qui a fait en sorte que j'ai dans ça que j'aime faire tout de suite.
So, comment est différent qu'était ta business ce temps-là versus ta business Astur une fois que tu as trouvé ce why? Mmh.
Ben, ça changeait beaucoup, comme ça changeait beaucoup au niveau de la culture de la compagnie. Je pense qu'on a commencé à... Moi, j'ai un gars qui veut s'entourer avec des gens qu'avoir la même drive ou maintenant qu'avoir les mêmes valeurs. Ça fait tout le côté, la culture de l'entreprise d'art et tout autour de nos valeurs de business. Quand on embauche quelqu'un, c'est ça qu'on cherche. On cherche le monde qui fit là-dedans. Une fois que tu fit là-dedans ça, puis si tu as les bonnes valeurs comme personne, là, après ça, nous autres, on peut trainer de n'importe quoi à partir de là. Puis je pense que quand tu t'entoures avec du monde qui sont semblables, comme je disais, tes cinq personnes ou puis comme on a la même affaire ou les mêmes valeurs, là, la magie commence à arriver. C'est là que tu commences à voir que tu changes les processus, tu changes les choses, tu fais les choses différentes. tu poses beaucoup de questions à des personnes jusqu'on posait pas de questions, on assumait beaucoup de ce que notre client voulait, on assumait beaucoup de ce que l'ergothérapeute voulait. Je pense qu'on a commencé à poser beaucoup de questions pour dire, hey, quoi qu'on fait, qu'on pourrait changer. On peut jamais, nous autres, on fait affaire avec le monde. Souvent, on chasse au long, en tout cas, besoin des équipements, mais moi, je peux bien vendre ça, mais je peux pas me mettre dans le soulier, littéralement. J'ai jamais été là. Ça fait, c'est très difficile pour moi de savoir qu'est-ce qu'ils vivent. Je ne sais pas. C'est pas comme vendre une voiture. Ce que je dis, je l'ai déjà conduit la voiture. Moi, je sais comment ça conduit, puis je vais te dire à propos. C'est pas la même chose. Ça fait, il faut qu'on écoute beaucoup. Il faut qu'on écoute beaucoup qu'est-ce qu'ils nous disent pour qu'on peut, après ça, les suggérer de la bonne direction. So, c'est ces choses-là qu'on a pu changer comme culture puis comme environnement qui a changé ma business aujourd'hui de qu'est-ce que c'est, de qu'on se l'a acheté. T'sais.
J'ai curieux si que tu as eu besoin de changer. Tu sais, on parle des 5 personnes qui sont autour de toi. Je sais pas qu'est-ce que c'est là. You are the average of the 5 people you hang out with the most. Là, ça a été populaire. J'ai curieux si tu as eu besoin de changer ce monde-là activement ou si que ça s'est fait passivement ou si qu'il y a même eu un change ou si ce monde-là que tu étais déjà avec, tu as kind of enligné de cette direction-là déjà.
C'est un peu des deux. Je pense qu'il y a des gens que tu vas être avec puis quand est-ce que tu t'en vas d'une soirée ou quelque chose, tu commences à penser qu'est-ce qu'on a parlé de ou qu'est-ce que les discussions qu'il y avait autour de la table. Du coup, je m'apercevais que j'étais peut-être avec des personnes où c'était souvent négatif. Puis je me faisais entraîner là-dedans ça, puis je me sentais comme mon allait, puis je me sentais pourquoi j'étais dire ça comme vraiment, c'est pas vraiment comme moi, mais si t'es dans cet environnement-là, tu peux pas faire autre que contribuer, puis tu sais, on fait ça. Ça fait, je pense que j'ai pu réaliser ça, puis commencer à écouter, là, je commence à dire, ben, c'est pas vraiment ça que je veux, tu sais, c'est pas pour moi. Et puis, là, pour des personnes, c'est eux. Il y a du monde que c'est, ils ont vraiment la gossip, puis c'est vraiment leurs affaires, puis ça, c'est OK, là, tu sais, j'ai rien contre ça. Puis juste que pour moi, c'était pas ça que je voulais, j'étais plus là, tu sais. Ça fait, c'est comme ça que j'ai pu commencer à, je ne veux pas dire flusher, mais commencer à dire à des personnes que, ben, on va au moins les appeler, puis être avec les personnes peut-être qui sont plus comme nous autres ou qui ont les mêmes valeurs comme nous autres. Puis là, ça t'emmène qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît quelqu'un d'autre, qui est comme vous autres. Puis, tout d'un coup, ce sac-là, tu viens voir qu'il y a des gens qui sont comme toi. Puis j'essaie tout le temps de trouver des gens qui sont plus smart que moi. Tu sais, comme moi, j'ai tout le temps dit, comme, I married up in life. Comme moi, ma femme, Sonia, comme, I really married up. Comme, tu sais, elle, she's got it figured out. Et elle est la ministre des Finances, elle travaille avec nous autres. Ben, on se complimente bien. Tu sais, parce que elle, elle n'a pas les décisions que moi je fais, mais elle va analyser pour moi pour faire les décisions qu'on fait. Ça fait, quand est-ce qu'on est ensemble, puis c'est que t'as cette dynamique-là, que si tu travailles ensemble ou pas avec ton amour ou ta personne, je pense que ça va loin parce que ça aussi, ça t'entoure avec d'autres mondes qui sont semblables à ton couple, tu sais. Ça fait, c'est comme ça que ça comme fait. Ça fait naturellement, tu sais. Autre que des fois, on dit, OK, ben, on n'a pas vraiment aimé ça, on ira pas back, là, tu sais. C'est pas absolument. Mais si t'es conscient de ça, juste là, juste être conscient de ça, ça fait une différence, tu sais.
Yeah. Trouves-tu que t'as eu comme une nouvelle, peut-être, ouverture à mettre tes valeurs personnelles plus out there pour essayer d'attirer ce monde-là qui a ces mêmes valeurs-là. Comme une fois que tu as pu figurer ça out, il y a une manière que tu as mis tes valeurs-là out there to the world pour attirer le monde à kind of connecter avec du monde similaire?
Je sais pas si j'ai mis ça out there. Comme je pense que moi, je joue moi-même, puis le monde à n'importe qui me connaît très bien va dire la même chose. Chante, c'est ça qu'il va avoir. Non, je pense pas. Je pense que j'ai des telles choses dans ma vie que pour moi sont importantes. So, tu sais, j'ai des valeurs que je garde. J'ai un plan de vie que je fais une fois par année avec un livre que j'ai lu à un moment donné. Puis c'est ça que cette personne-là a fait un plan de sa vie. Puis une fois que tu fais ton plan, tu le mets de côté. Puis c'est un petit peu comme le livre de Secret. Il y a des choses qui commencent à arriver pour pas de raison, juste à cause de ta mise à l'univers. Ça a comme arrivé comme ça.
So, ce plan de vie-là, c'est quoi ce plan-là? Puis comment souvent tu le revisites?
Parce que comme je disais, c'est quoi que je revisite à toutes les années, ça doit faire à moins 5 ans. Moi, la manière que je l'ai faite, je prends une page, je me prends une journée ou un avant-midi, un après-midi, une fois par année. Des fois, les idées sortent, des fois, ça sort pas. Puis ça sort pas, ben là, je vais prendre un café ou quoi de même, puis je vais revenir. Mais basically, je m'ai fait 5 colonnes. Une colonne que ça dit personnel, une colonne qui dit ma famille, une autre colonne qui dit ma famille puis mes amis, donc mon extended family, mes parents, ma sœur, mes amis. Après ça, j'ai mon travail, puis après ça, j'ai ma communauté. Ça, c'est mes 5 colonnes. Après ça, je vais aller dans chaque colonne, puis je vais juste écrire comme personnel. Qu'est-ce que je chante personnellement? Qu'est-ce qu'il aimerait avoir? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que la prochaine année, il pourrait écrire n'importe quoi, écris-le. Je m'en souviens, la première fois que je l'ai fait, j'ai écrit, je veux un bateau. Marqué, je voulais un bateau. J'ai jamais eu de bateau. Je sais pas pourquoi je voulais un bateau. Il y a un gars à un moment donné qui a dit, il y a juste deux belles journées au bateau. La journée que tu la jettes, puis la journée que tu le vends. ça m'a découragé complètement. Bon, en tout cas, j'ai tout rempli ça, personnel. Après ça, ma famille, la même chose. Qu'est-ce que les choses que je veux faire avec ma famille? Comment je passe avec mes enfants? Comment je passe avec ma femme individuelle? Comment les voyages famille? Puis après ça, la même chose pour mes amis. Mon travail, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je vais accomplir ces années de travail. Après ça, ma communauté. Puis la communauté, ben c'est un petit peu communauté, puis qu'est-ce que je donne de nouveau aux autres. So, que ce soit la communauté, que je sois du mentorship à d'autres entrepreneurs ou choses comme ça. So, je vais, puis je vomis qu'est-ce que je pense un peu sur cette page-là de ces cinq catégories-là. Après ça, ben je sers ça pour le reste de l'année. Je le touche pas de nouveau. C'est de ma subconscience si que c'est là. Puis l'année d'après, je me boucle de le calendrier à la même date. Puis là, je vais rechercher ça que j'avais écrit l'année d'avant. C'est comme cool de voir comme un checkmark qui se fait. Et quand ce que tu l'écris, tu dis, il n'y a pas de manière que ça va se faire. Puis que ça se fait. Puis des fois, c'est peut-être pas la première année, mais ça se fait de la deuxième année. Ça fait, pour moi, ça a été important. Puis ça a été, parce que comme entrepreneur, on dirait que tu vas être impliqué dans tout. Ça fait, j'avais comme beaucoup de balles que je jonglais en l'air du temps. T'sais? Puis toutes les petites opportunités, je chassais tout. Puis tout d'un coup, ben, tout chasser ça. Un, tu peux pas être bon dans tout. Puis deuxièmement, il n'y a pas assez de temps pour chasser tout. Puis je m'apercevais que je chassais des choses qui ne fitaient même pas dans mes valeurs que j'avais écrites. Ça fait, j'étais comme, c'est-à-dire quand il y a une opportunité qui se présente, tout de suite, je pense à ce calendrier-là ou cette affaire-là. Puis si que je vois que ça ne fit pas là-dedans, ça, je passe à côté. Puis je focus sur ceux-là qui sont en ligne avec ça. Puis ça fait une grosse différence au niveau de mon temps, de quoi ce que je focus dessus, puis pouvoir dire non à une opportunité que peut-être c'est le next Facebook, I don't know, mais de pouvoir dire non parce que c'est pas de ma ligne, c'est pas dedans mes intérêts, c'est pas dedans ce plan.
Sauf même si tu le revisites pas d'une manière, tu le revisites souvent.
C'est dans ton subconscient, je pense. Je pense qu'une fois que tu l'as écrit, comme c'est drôle, hein, quand ce qu'ils disent, il faut que tu l'écrives sur papier, là. C'est vraiment ça que c'est, là, il faut que tu l'écrives sur papier. Ça reste. Puis c'est facile à revenir de cette colonne-là anytime. Puis aussi, c'est facile de faire un check-in à la fin de l'année, puis dire, hey, j'avais dit de ma communauté, j'allais faire ça ou ça, puis c'est tout, j'ai rien fait cette année dans ça. C'est que c'était important assez de l'écrire sur le papier pourquoi que ça peut arriver. Là, tu peux te questionner, tu peux te faire un check sur toi-même, moi, si que tu vois la bonne manière. Parce que je trouve que le monde, tout est planifié de notre vie. On va en voyage, on planifie à quelle heure qu'on décolle, à quelle heure qu'il faut essayer à l'aéroport, à quelle heure. Tout est planifié de A à Z. Mais notre vie, on dirait qu'on va juste, we'll go with the flow avec notre vie. Je trouve que c'est une drôle de manière à prendre ça. Quand même que tu peux pas te décider. C'est pas ça que je peux te dire. Que c'est comme ça que tu commences à pouvoir enligner les choses, d'après moi.
Sur toi, personnellement, tu trouves qu'une fois que tu as commencé à faire ça, les choses ont changé comme beaucoup, juste parce que c'est quand même de quoi être simple, assez. Tu sais, c'est comme des New Year's Resolutions. D'une manière, le monde fait ça fait forever, puis ça work pas, ça fait forever. So, comment est-ce que tu trouves que ça, c'est différent que de setter des New Year's Resolutions?
Ben, souvent, c'est parce que New Year's Resolution, c'est vraiment une affaire. Puis c'est souvent personnel, c'est je vais perdre du poids, je vais aller au gym, c'est des choses qui sont peut-être, on mène au goût, plus gros. C'est vraiment comme ça serait, moi ça serait pas de dire je vais perdre du poids, ça serait comme je veux faire sûr que je vais m'entraîner cette année, que je vais prendre garde à ma santé cette année. Et ça serait vague comme ça. Comparer une New Year's Resolution que le monde fait, c'est que tu changes ta routine. Du jour au lendemain, tu changes ta routine souvent sur ceux-là qui mettent en place, tu sais. Changer une routine de quelqu'un, c'est très, très difficile. On est habitué de se réveiller une telle heure, puis après ça, ben on prend une autre café, puis on fait les enfants, puis après ça. Essayer de rentrer un workout là-dedans ou essayer de dire je vais faire 10 minutes de lecture là-dedans. Il faut que c'est vraiment, c'est déterminé, tu organises ta journée différemment. Ça demande un changement de routine complètement pour pouvoir souvent réussir. Mais je trouve qu'en le faisant comme ceci, on dirait que tu mets juste le stuff là, puis tu hopes que ça qu'il n'aide de ça qui stick. Parce que tu te dis tout le temps que je les ai écrits pour une raison. À un moment donné, ça avait une valeur pour moi.
Yeah. Je suis curieux, comme tu parles de les routines, est-ce que tu es une personne qui établit des routines puis qui stick à ces routines?
J'ai une routine que je dirais que j'ai de la misère à changer quand même, que je veux la changer. So, on a deux enfants, ça fait 14 ans par 11 ans, mais le matin, la routine du matin est pas mal établie, puis ça, c'est pas vraiment de mon contrôle. J'ai des tas de choses à faire, puis il faut que je les fasse, puis c'est correct. Mais autre que ça, oui, j'essaye le plus que je peux d'avoir ma cédule de semaine à semaine assez routinière. Pour moi, l'entraînement est important. C'est une question, pas nécessairement juste de me tenir en forme, c'est que si je m'entraîne pas, je peux pas dormir. ne pense pas que je me réveille de la nuit. Ça fait pour moi l'entraînement, ça fait longtemps que je fasse de quoi. Ça me sauve d'aller sur des médicaments. Ça fait, il faut que je fasse ça, que je peux rentrer ça dans ma journée ou d'une routine dans quelque part. Puis ça, ben ça me discipline à mettre ça là-dedans. Que ce soit 20 minutes, 30 minutes, une marche, whatever que ça peut être, que ça soit là-dedans. Tu sais, on a des réunions au travail que c'est très routinier. On a nos, ce qu'on appelle nos Monday meetings. Souvent, tous les lundis dans tous les magasins, tout le monde est autour d'une petite table. On passe à travers de la semaine de tout le monde. Donc 15 minutes, on fait le tour de la table. Puis parce que tout le monde va faire leurs choses. C'est ces choses-là qu'on a été obligé d'établir pour établir une routine. C'est difficile parce que tout le monde arrive puis il veut pas tout faire ça en même temps. Puis même moi, c'était facile à dire, ah, matin, ça me tente pas de faire la réunion. On passe à côté. Mais c'est qu'on a décidé que c'était important. À un moment donné, j'ai décidé que c'était important. Ça veut dire, c'est important qu'on le fasse. Puis si que ça donne trois chances de le faire, puis tu diras que c'est pas important dans six mois, là, c'est que c'est pas. Si t'as pas de valeur de ça, ben, donne, tu le flusheras dans six mois. Ben, si tu vois que t'as de la valeur, pourquoi tu le flusheras?
Yeah. Parce que je vois beaucoup d'importance, même que j'en ai parlé avec JC dans l'épisode numéro 7, je pense, de Cicurette. On parle de la routine, établir une routine, parce que souvent, si tu n'as pas de routine, tu as besoin de tester ton willpower chaque fois. Puis ça, c'est dur. C'est dur d'avoir besoin de tester ton willpower chaque fois pour faire de quoi. Mais tu sais que c'est une routine, puis tu le fais, on dirait que ça passe mieux.
Ah, absolument. Je pense que si tu peux incorporer quelque chose dedans, de quoi que tu crois dedans, puis tu peux le faire. Puis je pense absolument que plus longtemps que tu vas le faire, tu te bâtis de l'endurance de pouvoir changer tes routines puis de pouvoir faire des choses. Il y a une chose qui s'appelle 71 Hard, je pense que ça s'appelle. C'est un genre de workout pour 71 jours consécutifs, deux workouts par jour, 45 minutes, 10 minutes de lecture. Si tu bois un litre d'eau par jour, il faut que tu prennes une photo tous les jours. Je ne l'ai jamais fait. Okay, moi, je ne l'ai pas fait, mais je connais des gens qui l'ont fait. Puis, quand tu montres à ce monde-là, la transformation qui s'est passée dans la plus grosse transformation, si on dit, c'est le mindset qui a changé. De pouvoir voir que tu as pu actually le faire. C'est pas nécessairement c'est que tu as perdu du poids ou que tu es plus en forme. C'est comment est-ce que tu as pu changer une routine puis tiens à cette routine-là 71 jours consécutifs à faire quelque chose. Comment est-ce que là, après ça, tu peux dire, sais-tu quoi, je peux faire ça, je peux tacler plein de choses qui sont moins difficiles que ça.
Oui, c'est Martin Latulippe, on en a parlé sur l'émission à Samuel Chasson, okay. À l'embarras du choix.
Ouais, ouais.
Il disait comment est-ce que c'était la chose qu'il avait plus transformé, puis c'est le 75 Hard, puis il dit que c'est drôle que toutes les choses qu'il a fait dans sa carrière, tu sais, Martin, il a suivi toutes ces leaders de transformation-là, puis il dit c'est ça qui m'a plus changé, qui m'a amené des bénéfices. Alors, c'est comme intéressant de voir comment est-ce que, tu sais, dans 75 jours, tu peux vraiment te changer, ben c'est 75 hard, c'est pas facile, tu sais.
Non, c'est pas évident, puis comme juste même établir ce genre de routine-là, c'est quelque chose, tu sais, là, ça fait, c'est faut vraiment que tu sois déterminé, puis faut vraiment que tu il y a un but à la fin que tu veux, mais je pense que tu peux faire ton propre 75 hard. Tu sais, comme tu peux décider que ça soit juste faire de la lecture ou tu peux décider que je veux passer du temps avec ma famille. Il faut juste que tu le mettes, tu le cédules, puis il faut que tu le fasses. Puis je pense que c'est ça que le monde a la misère à se discipliner. C'est trop facile à décoller les choses, changer ton calendrier, de passer à côté. On fait ça régulièrement, puis c'est comme ça après ça qu'à la fin de l'année, au départ, on est déçu, on dit oh, on n'a pas fait vraiment ce qu'on voulait faire.
Tu penses que tu vas le faire?
Je peux pas le faire à cause du temps. Je peux te dire, par exemple, que drôle assez que depuis la mi-novembre, comme là, je sais pas quel jour qu'on est rendu, là, mais comme j'ai passé le 100 jours de workout 30 minutes par jour, puis le ring, puis le move, puis tout ça avec la iWatch, là, mais là, on est rendu aux 100 quelques jours de ça, puis c'est pas comparable à ça que les autres faisons, mais juste pour dire que, tu sais, il fallait quand même qu'on rentre de 30 minutes de workout, quand même qu'on se lève debout à toutes les heures, puis il fallait qu'on fasse sûr qu'on brûle tant de calories d'une journée. Ça veut dire que ça, c'est autant que ça semble facile, il y a des jours, c'est pas si facile, parce que si tu as amené ton jeune au hockey, puis tu as plein de choses de ta journée, puis là, tu dis, oh, il faut que je rentre un workout là-dedans, puis c'est sûr que je me lève debout à toutes les heures, puis il faut que je fasse sûr que je brûle mes 700 calories ou 600 calories, et des fois, c'est pas si évident, mais encore, pour moi, c'était un mental thing. C'était vraiment pour pouvoir voir si je pouvais le faire. Puis deuxièmement, voir si ça allait actually, si je pouvais actually ranger ça de ma routine. Puis guess what? Mm-hmm. I can.
Yeah. So, c'est quoi ce qui te motive right now? C'est quoi ce qui est comme qui te strive à vouloir continuer à t'améliorer puis à continuer de développer les choses pour toi?
Ben, la première chose, je pense que c'est que pour longtemps, même quand je suis gradué de l'école puis ça, c'est qu'il y avait beaucoup de défis en avant de moi que je pensais pas que je voulais, que moi je pouvais faire. ça fait, je me souviens, j'ai fait un startup, puis il fallait qu'on y aille raiser de l'argent, puis je faisais des présentations, puis ça. J'avais même jamais fait de présentation PowerPoint. Ça fait, tu sais, je pensais, il faudrait que je me fisse quelqu'un d'autre, il faudrait que je fasse quelqu'un d'autre. Ça que j'ai découvert vite fait, c'est comme être humain, là, on peut apprendre toutes sortes d'affaires. C'est incroyable. Tu sais, comme, quand même, tu crois que t'es pas bon dedans, tu peux te mettre là, tu peux aller sur YouTube, puis tu peux aller, surtout avec l'information qu'on a, tu peux l'apprendre. Puis, quand ce que j'ai pu comprendre que je peux mettre là, puis watch une couple de présentations de PowerPoint sur YouTube, puis là, j'ai commencé à jouer avec ça, que je pouvais faire ma présentation, puis c'était pas si compliqué que ça. J'étais comme, ah, checkmark, je peux faire ça, c'est sûr. Aller pitcher à des angel investors, j'avais jamais fait ça. Quand t'as watché des vidéos, c'était à m'apprendre, je pensais peut-être que j'engage quelqu'un pour le faire pour nous autres. Non, je l'ai développé, puis je l'ai fait. Ça fait que je m'ai aperçu que l'être humain peut apprendre énormément de choses par soi-même. Ça fait ça, c'est une chose que je dirais que je peux faire. Il y a des choses que des fois, ça vaut pas la peine d'apprendre, puis aussi bien engager quelqu'un d'autre pour le faire, puis toi, focus sur ce que c'était bon. I'm a believer in that. Mais il y a d'autres choses que j'ai pu me motiver un peu, ou j'ai pu faire ces petites choses-là, ces cheminements-là qui m'a dit, wow, je peux faire toutes sortes d'autres choses. Tu sais, comme the sky's the limit.
So, I guess qu'on arrive proche de la fin. Il y a une question que j'ai tout le temps curieux, puis tu l'as mentionné plus tôt, Ayus, que tu as dit, I wish que j'aurais su ça avant. Puis là, on a parlé de comme failure, puis comment c'était important. Si que tu pourrais te dire de quoi quand tu étais plus jeune pour t'aider à avoir plus de succès aujourd'hui, c'est quoi ce que tu aimerais te dire?
Je pense que je me dirais de te faire plus confiance. Puis c'est probablement une réponse qui est plate, puis probablement beaucoup de monde donne ça. Je pense que quand on est jeune, puis qu'on est là, on se questionne beaucoup. On se questionne beaucoup, beaucoup de raisons. Puis on a tous les droits de se questionner pour ces raisons-là. C'est drôle que comment les choses qu'on se questionne là, puis les choses qui sont si importantes là, que quand on garde ça à la langue, c'est comme vraiment rien tout. Je me dirais aussi que risque plus, comme dans le temps que t'es jeune, là, dans le temps que tu l'as, là, comme juste va puis avance des choses, don't hold back. Quand même que tu vas faillir, t'as plein de temps à te remettre sur tes pieds. Tu sais, je pense que c'est ça que arrête le gros du monde, c'est même les jeunes d'aujourd'hui, ils s'arrêtent de faire des choses parce qu'ils ont peur de pas pouvoir se remettre ses pieds. Et de pouvoir se mettre ses pieds, ils sont jeunes. Tu sais, il y a une pleine vie devant eux à faire tout ce qu'ils voulaient après ça. Puis la failure est pas de failer, la failure est de pas se relever de bout puis d'essayer quoi d'autre. C'est vraiment ça qui serait la failure. Ça fait, ouais, si j'avais quoi à me dire, ça serait un peu de il n'y a pas peur de risquer, il n'y a pas peur de foncer un peu. Il fallait en dignité, puis tu vas voir, ça va bien aller. Reste-toi pas trop.
Yeah. Puis c'est une réponse qui vient souvent, ça, d'avoir plus de confiance quand tu étais jeune. Puis je suis curieux si que on pourrait aller un petit peu plus creux peut-être, puis de comment bâtir de la résilience quand tu es plus jeune, ou peut-être même aujourd'hui, parce qu'il n'est jamais trop tard, tu sais, à 50 ans, tu peux changer de carrière. Ben, comment est-ce qu'on fait pour bâtir de la résilience à vouloir pousser à travers des failures, puis se dire que même si on n'a pas eu du succès, qu'on va continuer puis qu'on va l'apprendre?
Ben, tu sais, la société d'aujourd'hui, certains aident peut-être pas, puis ça, je suis pas un thérapeute moi-même, là, mais tu sais, quand tu gardes, je coachais mon enfant au hockey, puis tu sais, les premières années, là, pour les 4 premières années presque, là, on comptait pas les points. C'est parce qu'on voulait pas qu'il y ait de gong ou de pardon. T'sais, tout le monde s'en va, puis tout le monde bat une médaille. On fait une faveur à nos enfants, on pas les apprendre à gonger ou pas les apprendre à perdre la société? Je pense pas. Au jour d'aujourd'hui, à l'école, je suis pas sûr que tu peux actually faillir l'école. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des problèmes. Il faut vraiment qu'il y ait, un petit peu comme mes parents, il faut vraiment qu'ils disent non, il faut qu'ils répètent, là. T'sais. Je pense que ça arrive plus. On dirait qu'on apprend de bubble wrapping nos enfants peut-être un petit peu plus qu'on devrait. Puis ça prévient ces faillites-là que, pour moi, mon inquiétude, c'est lorsque ces jeunes-là auront une faillite à 18 ans, 19 ans, ou qu'elle a un job, puis ça marche pas, puis ils se font congédier, ça serait-tu la première faillite, puis ça serait-tu 3 fois plus tough que ça aurait été que si Carillon a pris à gong puis perdre au courant de leur vie? C'est ces questions-là que je me demande avec la société aujourd'hui un petit peu, pour voir si que on peut-tu préparer nos jeunes à, pas nécessairement à faillir, mais que si qu'il y a une faillite, comment est-ce qu'on deal avec ça, t'sais? Puis je pense que c'est là que la société est un petit peu disconnectée un peu. Puis c'est pas tout le monde, mais on certainement qu'on n'aide pas la chose qu'on donne un trophée à tout le monde ou qu'on donne une médaille à tout le monde pour avoir participé.
Ben, c'est intéressant parce que comme on a parlé hier qu'on parlerait peut-être de ça aujourd'hui, puis j'ai actually fait pas mal de recherches où ce que c'est intéressant de les sports, comment est-ce que les arguments, pourquoi est-ce que on compte pas les buts. Il y a quand même des bons arguments sur ce côté-là où est-ce que tu sais, à la fin de entraîner quelqu'un pour être un meilleur joueur de soccer, on va dire, est différent que entraîner quelqu'un pour gagner à cet âge-là. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire qui vont te développer comme meilleur joueur, mais qui ne vont pas nécessairement être bon pour gagner right now, parce que tu joues contre du monde qui n'est pas bon non plus, right?
Mais on joue-tu juste des sports? Comme souvent, il y a des gens qui jouent des sports, puis c'est pour jouer des sports, c'est pour avoir de la fun. Mais c'est de l'apprentissage que tu fais dans le sport, tu sais, de travailler en équipe, d'être capitaine d'une équipe, qui veut dire que tu as peut-être démontré du leadership. C'est pas tout le temps nécessairement développer l'athlète, pas nécessairement tout le temps développer le sport comme tel. C'est développer la personne à être d'une équipe ou être un leader ou pouvoir gérer ces émotions-là que tu vas avoir besoin de ta vie plus tard, que ça soit d'un sport ou que ça soit de n'importe quoi. Ça fait, je pense que c'est là que pour moi, et puis je peux comprendre le côté de ce qu'ils disent, que ben c'est pour ces raisons-là. Absolument. Je suis sûr qu'il y a les arguments des deux côtés. Mais est-ce qu'on fait une faveur aux jeunes ou même au niveau des fois dans le sport, il y a plus que juste le sport qu'on apprend quand on est dedans.
Ouais, tu sais, l'argument est que tout ça que tu fais juste de nommer, as-tu besoin de compter les scores pour développer ça?
Hein? Peut-être que oui, peut-être que non. Si tu sais que tu as perdu, puis ça, regarde, on va pas se le cacher, les jeunes étaient sur le banc après, même si on comptait pas les buts, tu demandais aux jeunes parce que les points, ils te disaient, c'est 4 à 0 pour eux. ils savaient, tu sais, mais on ne jouait pas nécessairement pour gagner, on jouait pour avoir la fun, c'est correct. Le jeune le sait, mais il apprend pas à perdre comme une équipe, il apprend pas à gagner comme une équipe. Ou s'il l'apprend, il l'apprend plus tard, tu sais. C'est peut-être correct, c'est peut-être correct ça aussi.
Je pense qu'il y a quand même, il y a gros de ça que tu dis qui semble être un problème aussi, parce que comme, si quand on face pas l'adversité quand on est jeune, puis on se le cachera pas, là, c'est, on dirait que toutes les générations ont dit ça, puis des fois, c'est ça, je me demande, j'essaie de me reposer la question, on dirait que toutes les générations ont dit que les jeunes d'aujourd'hui l'ont plus facile. Puis il y a probablement une vérité, je pense qu'il y a aussi une vérité qu'ils l'ont plus facile de les manières que nous autres, les plus vieux, on l'a eu plus dur. Il y a des choses que eux sont plus dures que nous autres, on a eu plus facile aussi, right? C'est juste, je pense que c'est peut-être pas plus facile, c'est juste différent. C'est juste facile à le voir, plus facile d'une différente optique, right? So.
Ouais, c'est totalement différent parce que, tu sais, peut-être Marcel, toi, tu sais qu'on a vu une différence, là. Ben, moi, je me souviens, il disait, ben, surveille pas trop la télé, c'est pas bon pour tes yeux, là. C'était, hey, surveille trop la télé, quoi, ça va faire comme jeune. Puis là, nous autres, on est là aujourd'hui, puis on dit, hey, le temps d'écran est, tu peux pas passer tout ton temps à l'écran, puis, tu sais, nos jeunes qui watch à la télé aujourd'hui sont corrects, là. Tu sais, là, ça les a pas si tôt. Ça fait, c'est peut-être juste la même chose qu'on a fait faire, tu sais.
Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je suis totalement d'accord avec toi qu'il y a un côté de résilience qui est probablement après de se faire sous-développer qui va tomber à être un problème majeur pour beaucoup de personnes, right? J'aimerais te finir par ça puis te donner une opportunité de pouvoir nous dire c'est quoi ce qui est Tango puis. Peut-être nous parler un peu de ce business-là.
Tango, regarde, c'est simple, c'est une compagnie, on vend de l'équipement médical, ça fait souvent, c'est des personnes qui ont un besoin, ça va d'aller à le besoin d'avoir une canne, aller jusqu'à le besoin d'avoir un ascenseur dans la maison, ça peut être tous les équipements entre ça. C'est quoi qu'on vend, qu'on aide, on consulte beaucoup, ça fait, tous ces équipements-là sont souvent référés par des ergothérapeutes. Puis là, ce qu'on fait, qui est peut-être un petit peu plus spécialisé, c'est que nous autres, on est spécialisé un peu dedans les choses custom, sur des choses que peut-être pas de l'équipement qu'on peut acheter off the shelf. Nous autres, on fait des coussins custom, on fait des dossiers custom, on fait des lifts custom. Ça fait on adapte à ça que les gens ont besoin au jour d'aujourd'hui. Puis je pense que ça, c'est important parce que chaque genre a comme un différent besoin. Ça fait, en gros, c'est ça qui est notre business. Puis on fait beaucoup affaire avec la population âgée, obviously. C'est ce monde-là qui a besoin un peu plus de l'équipement. Puis après ça, ben, t'as tout le monde qui a les besoins sur ceux-là qui ont eu un accident ou que malheureusement, on a besoin de nos équipements qui sont plus jeunes. Puis c'est un peu ça qu'on gratte dedans.
Ben parfait. Sauf si qu'il y a quelqu'un qui cherche ça ou qui connaisse quelqu'un qui cherche ça, Tango Medical sera là pour vous autres.
Ben, c'est comme c'est drôle parce qu'on dirait qu'on veut pas vendre ça à personne qu'on connaît. Comme si tu veux pas.
No, that's right.
c'est comme une drôle de business parce qu'on voit quelqu'un, c'est comme oh non. Ouais. Ben, je crois bien que c'est la situation. Ouais, est-ce qu'on peut aider? Ben, on vous donne un coup de main.
Perfect. Well, merci beaucoup, Sean. J'ai fier d'être venu ici nous parler de ça. Puis, si que les gens voudraient savoir plus about toi ou about ta business, est-ce que tu aimerais de les envoyer?
Ouais, ils vont aller sur tangomedical.ca. Puis, s'ils veulent me rejoindre directement, c'est Sean, SHWN, @commercial. Après ça, tangomedical.ca.
Perfect. Merci beaucoup, Sean.
Pas de problème. Un plaisir. Bonne journée.
C'est malheureusement la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à marcelrichard.com. Puis dites-moi allô, j'aime tout le temps ça, discuter avec les gens qui écoutent. Alors, je vous souhaite une awesome journée, puis j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine.